FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, c'est l'heure de la case de Seb. On y parlera de BD avec des croisements multiples, de polar, de manga, de BD chelou et de manga. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, puisque c'est la seule émission qui va basculer dans votre tête par le truchement des ondes radiophoniques les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, on est ensemble pendant une heure et je suis accompagné de ma dream team ce soir. J'ai jamais eu autant de monde dans le studio depuis aussi longtemps. Sous vos applaudissements, j'ai déjà Luc.
Bonjour.
Ça va ?
Mais ça va super bien.
Super.
Surtout qu'on va parler de manga, donc ça va super bien.
Et j'ai aussi Fabien.
Salut, salut.
J'ai aussi Nalouen.
Bonsoir.
Et le plus grand Richard.
Salut, effectivement, on est beaucoup. Il va manquer des chaises, je pense, à force.
Ouais, on va pousser, on va faire... Mais je pense qu'à un moment, il faudra qu'on loue un théâtre pour faire des émissions. Truc qui n'a jamais été fait dans l'émission radio.
Calme ta joie, Seb, calme ta joie.
Mais moi, je veux donner du rêve à tous nos auditeurs. Je veux les faire rêver, les faire voyager.
On leur a déjà donné du sang là, il y a 15 jours.
On va. T'as loupé.
Ah oui,
en fait... On n'est pas payé, tu sais, on n'a pas de contrat, mais je pense que Luc aurait pu avoir un arrêt maladie quand même.
Ah là 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 là.
On a fait une émission gore.
Ah, ouais, il y en avait partout. N'hésitez pas, si vous avez envie d'interagir avec nous, à utiliser le chat de Radio G. On essaiera de répondre ou de parler de vos messages, ou même on fera des trucs. N'hésitez pas, le chat il est là, on va essayer de le lire, on va essayer au moins de vous répondre. On a plein de choses ce soir, on va commencer déjà par la chronique de Richard que tu n'as pas faite.
Je n'ai pas faite.
Bravo.
Je suis un mauvais élève.
C'est inadmissible.
Je suis un mauvais élève, mais en même temps c'est pour terminer à temps pour l'autre émission que tu fais que je ne m'aurai pas.
Eh ben oui.
C'est pour terminer...
Révolutionarium.
Ouais.
Ah bon, okay.
Pour terminer l'actual play qui va être diffusé la semaine prochaine.
Alors, on a un message d'un auditeur qui nous demande si Hervé Bazin a fait une BD.
Non.
Donc non, Bruno, non. Hervé Bazin n'a fait pas
pourquoi,
fait de
pourquoi
BD.
Pourquoi tu dis Bruno?
Parce que c'est le Bruno qui...
Bah oui, c'est donc, mais bien évidemment, ça peut être que Bruno. Bruno n'a qu'une obsession. Il ne connaît rien à la BD, il ne connaît rien à Hervé Bazin, mais il fait une fixette sur Hervé Bazin.
On pourrait peut-être trouver la biographie d'Hervé Bazin en BD, je suis sûr que ça existe.
Bah, il a qu'à écouter le podcast.
Donc du coup, oui, non, bah, pas de chronique Glouton et Dragon. T'as eu le temps de regarder un petit peu,
oui,
quand même, un petit peu.
J'ai lu le premier chapitre.
T'as lu
hier soir. Non, c'est pas vrai. J'ai lu deux chapitres, ce qui fait que je me suis dit, ah, ça serait quand même con que je regarde l'animé juste en disant, ah, j'ai lu deux chapitres, j'ai vu un épisode. Non, je vais aller plus loin.
Donc t'as lu qu'un chapitre, t'as pas vu l'épisode pour l'instant.
Deux chapitres et j'ai pas vu d'épisode pour l'instant.
Ok. Bon, cool. Nolwenn, tu l'assistes dans ses visionnages, lectures?
Absolument pas, il est autonome sur
ça. Il se débrouille.
Ouais, c'est aux toilettes, donc je le fais tout seul.
Vous ne pas le savoir. Et ça, c'est
après
fait.
Après le gore, le scato.
On va y arriver. Qui veut se lancer en premier? Fabien, t'es motivé?
Ben oui, carrément.
Allez,
avec plaisir.
On commence par d'abord ton générique. Attends, allez. Hop, on est là.
Kaizoku Oni! これはなる
何お前はもう死んでいる。
Et c'est à toi.
Eh ben, c'est parti. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un manga que j'ai lu quasiment d'une traite il y a de ça une semaine, qui n'est pas un manga tout jeune, qui s'agit de Sanctum, qui est sorti en France en 2012 aux éditions Glénat et qui est paru au Japon en 2009. Et donc, comme je dis, avec 5 tomes. Donc, assez rapide à lire, mais j'ai pas pu m'arrêter de lire parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Donc, on retrouve au dessin un très grand dessinateur qui s'appelle Boichi, et qui est vraiment très très doué, je vais vous en parler un petit peu après, et au scénario Masao Yajima. Donc on est sur un seinen, clairement, je dirais pas avant 13-14 ans, hein, même ouais 14, un bon 14.
Violence un peu.
Un peu violence, un peu cru de temps en temps, voilà donc...
Boichi quoi.
Boichi, mais je vais en parler un peu après, j'avais un peu peur que ça soit trop, et ça ne l'est pas, et ce qui est très très bien. Et donc on va être vraiment sur action, suspense, avec une petite touche de SF aussi. Donc, l'histoire se passe dans un monde contemporain. Nous faisons la connaissance d'une famille japonaise et plus particulièrement de Luna Azuki, la protagoniste. On les voit en train de rouler sur les routes désertiques des États-Unis en direction de Las Vegas. Quand tout d'un coup, venu de nulle part, ils sont victimes d'un terrible accident dont seule Luna va survivre. Tout du moins, c'est ce que la scène de l'accident, dessinée de manière vraiment magistrale, nous laisse penser, puisqu'on se retrouve 7 ans plus tard avec Luna et on la voit avec sa famille. Alors là, on se dit en tant que lecteur, oula, comment c'est possible? Au vu des images juste avant, bah là, on a vu la famille mourir et tout, il y a peut-être un truc qui va pas. Et en fait, on n'est pas les seuls, puisque quelques pages après, Luna elle se fait agresser dans la rue par un homme qui va lui hurler dessus en lui disant comment elle peut vivre aussi heureuse après l'accident et comment sa famille a pu ressusciter. Ok, donc ça c'est juste un petit résumé rapide du premier chapitre. On est vraiment vraiment au tout début, ça va
déjà
très vite.
Beaucoup de mystère.
Voilà, avec beaucoup de mystère, et ce mystère il va très vite s'éclaircir en fait, parce que juste après on va avoir un flashback, et dans ce flashback on va apprendre que Luna elle aurait passé un pacte avec une entité, sorte de démon ou d'ange, on sait pas trop, pour pouvoir vivre encore 7 années avec sa famille. Mais voilà, on est arrivé au bout de ces sept années, et du coup ce pacte pourrait en résulter l'apocalypse. Donc on va partir vraiment sur à fond dans une sorte de guerre de religion, parce qu'il y a la religion qui va se mêler à tout ça, on va avoir le Vatican, ça va vraiment être à 100 à l'heure, ça va être ultra cool, les dessins de Boichi sont magnifiques, vraiment là-dessus, très très cool, et je ne peux que recommander cette lecture. En plus, 5 tomes, ça va vite, c'est ni trop court, ni trop long, c'est vraiment très sympa. Et je vais m'attarder un peu sur le dessin, parce que franchement, là, attention les yeux. Alors, tout le monde ne peut pas aimer son style à Boichi, qui est quand même très réaliste avec un trait particulier. Mais là, moi, j'ai vraiment adoré. Il y a des planches, des doubles pages qui sont d'une beauté exceptionnelle.
En général, c'est une dinguerie hein, quand même Boichi
ouais.
À chaque fois.
Ouais, ouais. Moi, je suis très friand. Et moi, j'avais un peu peur au début quand même en parlant de Boichi, parce qu'il a quand même un petit côté souvent ecchi, c'est-à-dire vraiment, il sexualise énormément le corps des femmes et tout ça. Et là, sincèrement, je trouve que il y en a un petit peu, mais ça colle bien dans le thème et ça va être vraiment l'entité surtout un peu en joue démon, on sait pas trop qui va être un peu sexualisé de temps en temps la protagoniste, mais ça reste léger. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur le summum de Boichi pour donner ce découpage, ce rythme, et c'est vraiment du très très lourd. Comme je disais, attention, hein, c'est violent et tout ça, donc pas dans les mains de tout le monde. Mais moi, je vous recommande vraiment. C'est très bien dessiné, le scénario est super sympa, bien rythmé. Les 5 tomes se dévorent très vite. C'est ni trop long, ni trop court, avec une fin qui se tient. Donc non, moi, j'ai vraiment été conquis par cette lecture.
On a quand même envie d'avoir autre chose ou une fois qu'on est fini, on est
non. Moi, ça, bah, global, moi, ça m'a convenu. Bien. Ouais, moi, ça m'a convenu comme ça. En tout cas.
Ok.
J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool.
Eh ben, parfait. Je veux bien que tu redonnes les références.
Ouais, bien sûr. Donc, c'est Sanctum aux éditions Glénat, en 5 tomes, sorti en France en 2012.
Eh ben, parfait. C'est cool, ça. Je vais mettre une petite touche, moi, de douceur. Parce que du coup, voilà, c'est pas très très joyeux quand
non,
même.
Non, c'est pas hyper. Non.
Moi, je vais vous parler d'une petite anomalie, une petite expérimentation. Je ne sais pas comment parler de ça. Je vais vous parler d'une BD qui est en fait 4 BD qui s'appelle Chasser croisé au Val d'Oré. C'est de Lewis Trondheim et Sergio Garcia et c'est publié aux éditions Dupuis. Déjà, on a un petit coffret avec 4 albums carrés. Je vais vous lire les différents titres et je vais vous expliquer après. On a Une vie de chien, on a Le garçon qui ne voulait pas de chat, La petite fille fantôme et Un président pas comme les autres. Alors peut-être que vous vous en doutez déjà, mais c'est une expérimentation. En gros, on va avoir un lieu, le Val d'Oré, où on va avoir 4 histoires qui vont, à un moment ou à un autre, s'imbriquer les unes dans les autres. On a l'histoire d'une petite fille fantôme qui est une petite fille fantôme qui va nous expliquer un peu son histoire. On a un petit garçon qui aimerait bien un chien mais à qui on offre un chat. On a
ouais, ça fait pas le même bruit hein.
Non, ça fait pas le même bruit. On a je suis perdu le chien qui nous raconte un peu sa vie de son enfance à son adoption et en passant par sa maîtresse. Et puis on a ce fameux président pas comme les autres qui nous raconte que au départ il voulait pas être président et puis que quand on l'a intronisé président, on lui a dit qu'il devait sauver le monde. Ces 4 albums qui sont complètement différents les uns des autres, c'est des ouvrages qui sont lisibles par des enfants, mais qui ont chacun des thématiques pas toujours simples. Ça aborde la mort, ça aborde... je sais pas comment expliquer. En fait, chacun des tomes a une ambiance différente. Celui avec le chien aborde la mort, il va être vachement triste. Celui avec le président a un côté un peu plus fantastique. Celui avec la petite fille fantôme a un côté très sombre au départ et puis on a un côté un peu plus joyeux, un peu métaphysique. Et à un moment ou à un autre, chacun des personnages va rencontrer les autres et les histoires s'entrecoupent, s'entremêlent. C'est tout à fait possible de lire chacun des ouvrages indépendamment des autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. C'est aussi un petit peu la peur qu'on a quand on a ce genre d'expérimentation, c'est-à-dire d'avoir des ouvrages qui, si on n'a pas l'intégralité de l'histoire, sont un peu faibles. Mais chacune des histoires se suffit à elle-même.
Ouais, puis ce qui est assez étonnant là en parcourant un petit peu, c'est que en plus de ça, c'est complètement différent d'une histoire à l'autre à l'intérieur.
Complètement.
On
n'a
pas du tout les cases, le découpage, c'est pas la même chose. Les textes sont pas du tout amenés de la même façon. Ça a l'air assez sympa.
Et pourtant, on a cette expérimentation-là. C'est pas Lewis Trondheim qui est au dessin, c'est Sergio Garcia Sanchez qui a su justement trouver en fait différentes façons de raconter et d'interconnecter des histoires. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu plusieurs lecteurs nous à la maison sur cet ouvrage-là, enfin sur ces ouvrages, hein, puisque c'est une BD multiple. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Et on a tous commencé par un tome différent et on est tous persuadés d'avoir pris le bon ordre, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vraiment sympa à lire. J'ai une petite préférence quand même pour le président, qui est très très drôle. Il voulait devenir un voyageur galactique et il a décidé de devenir comptable avant de devenir président. Mais il explique que comptable, c'est un peu pareil que voyageur galactique.
C'est vrai.
T'as une expérience de comptable,
ça. Oh oui. Non, de voyageur galactique.
Ah. Et du coup, c'est un petit ouvrage qui est sympa, qui peut se lire à tous les âges. Il y aura des niveaux de compréhension qui seront différents. C'est pas parce qu'on parle de mort que ça en fait un truc sombre. Au contraire, c'est abordé de manière très pédagogique. C'est plutôt cool. Et c'est vraiment sympa.
La présentation est plutôt belle. Il y a un petit handicap, c'est le prix quand même, hein, presque 30 euros, ce qui est pour même une série d'albums, en fait, l'objet à acquérir d'un seul coup, c'est beaucoup, quoi. Enfin, ça me semble beaucoup, même si l'objet est très beau, hein, le graphisme est magnifique, enfin, c'est vraiment, c'est super, hein.
C'est peut-être ça la problématique. Alors, je ne sais pas s'ils sont vendus à l'unité, ce qui est dommage parce que c'est vraiment un ensemble, en fait. C'est pas une série, c'est pas, il y a plein de choses, mais faut.
J'étais en train de feuilleter un peu les albums.
Ouais.
Et au niveau que ce soit du visuel, des planches et aussi des sujets un peu du quotidien qui sont abordés, ça me fait un peu penser à Pic au Bog, ouais, avec cette sorte de double lecture à la fois pour les enfants et pour les adultes. Et aussi au niveau du dessin qui est hyper simple. On sait pas, au niveau des couleurs, c'est pas la même chose. Mais moi, ça me fait penser à ça. Et c'est un format qui est peut-être plus accessible pour les plus jeunes que Picobog.
Mais complètement. À savoir que Picobog, tu avais eu un spin-off avec Anna Anna,
oui,
qui était dans un format plus petit, sauf erreur de ma part, et qui était destiné aux plus jeunes, justement, pour entraîner vers Picobog. Mais effectivement, on a ce côté très jeunesse, enfance, où on a des sujets qui sont un peu durs, mais qui sont tout à fait présentés, parce que ça fait partie aussi du quotidien. Un enfant qui meurt.
Un peu moins la touche humour,
ouais,
jeu de mots, etc.
Ça va dépendre des ouvrages, en fait.
C'est important comme ça. Ouais.
Parce que celui avec le chien, on va passer de quelque chose de très triste à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Celui avec le président, il est complètement loufoque. Il y a plein de choses. Celui avec le petit garçon qui ne voulait pas de chat, ça permet aussi aux enfants de comprendre un peu la frustration. Il y a plein de pédagogie dans ces albums qui fonctionnent bien.
Oui, par contre, promettre un chien à son enfant seulement s'il passe son bac et il passe son diplôme de médecin, c'est peut-être un peu excessif.
C'est transmettre des ambitions et ne pas assumer les siennes.
Surtout s'il ne veut pas faire médecine. Mais
il y a une morale, il faut le lire.
Oui.
Il y a une morale, puisque, on l'a dit, hein, tous les personnages vont s'entrecroiser et ce petit garçon va rencontrer le président et va lui poser une question. Et le président va lui expliquer que, et c'est un peu le début de l'album du président, qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut.
Ouais. Voilà, généralement un président, sa réponse à ça, non.
Et non. On va pas faire de politique maintenant.
On n'a pas fait de politique, on a dit ce que disait un président, c'est pas de la politique ça.
Oui, mais on aurait pu transmettre ça avec le contexte actuel, par exemple.
Là, c'est toi qui, joues l'agriculteur, là, tu vas te faire taper sur les doigts. Là, hein.
Je ne ferai pas ça. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Popcorn Salé de Santa, et on se retrouve tout de suite après.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
Santa avec Popcorn Salé sur le 101.5 de Radio G. J'étais en train d'hésiter sur la fréquence.
Mince.
Bah, t'es troublé, quoi. Cette chanteuse est troublante. Voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire.
Bah,
c'est déjà pas mal.
C'est.
Oh, mais Luc!
aïe.
Ça claque dur.
Bon, on sent que Luc a envie de parler. Allez, ça va être ton tour. Allez, un petit coup de générique.
Il est très fort.
Il veut pas partir.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh ben aujourd'hui au menu Seb et toute la bande, une réelle surprise sortant des sentiers battus. Tout en restant paradoxalement dans les sentiers battus. Je vais parler de l'album Vrac Sec, sous-titré Polar Portuaire, de Elsa Gauthier et Jacob Hardy, et publié aux éditions Ouest France.
Avec une telle intro, ça sent la Bretagne à plein nez.
Bien vu, t'es vraiment, t'es très fin, Seb, c'est ce qu'on apprécie chez toi. On est à Lorient, donc bien en Bretagne. L'album s'ouvre sur un homme dans un petit bateau, un pêcheur, sans doute. Il chante, mais pas n'importe quoi. Il chante les Berruriers Noirs et leur fameux titre « Salut à toi ». Un pêcheur punk, en quelque sorte. Le cadre est donné, mais cet homme qui chante, ce pêcheur punk, au moment d'accoster, découvre un corps flottant au bord du quai. Scène 2, l'Odysseus, un énorme vraquier, entre dans le port pour décharger du soja OGM provenant du Brésil. Scène 3. Jules Février, lieutenant de police plutôt mélancolique, est alerté et se rend sur le port pour examiner le cadavre. Scène 4. Léna Lequéré, inspectrice de l'ITF, la Fédération Internationale des Ouvriers du Transport, organisation syndicale que défend entre autres les marins contre les patrons, est informée et se rend elle aussi sur le port. Voilà, tous les éléments du décor sont plantés. L'enquête est menée en parallèle par ces deux protagonistes. Le lieutenant Jules Février n'a qu'une confiance limitée dans l'ITF, à laquelle la CGT est affiliée. C'est tout dire. Très rapidement, le marin mort noyé s'avère être Nelson Ramos, un des marins de l'Odysseus. Un homme au sale caractère qui boit beaucoup et qui s'est battu. Raison pour laquelle le capitaine Costas l'a consigné dans sa cabine. Et ce Ramos a un gigantesque crucifix tatoué sur le thorax, l'un des signes des gangs brésiliens. Tout cela ne satisfait pas Léna Lequéré, c'est trop évident. Alcool, bagarre, trafic, mort, la piste est trop voyante. Elle contacte la femme de Nelson Ramos au Brésil, qui lui dit que Ramos voulait arrêter ce métier de marin. Il était donc plutôt prudent. D'un autre côté, Jules Février auditionne les marins de l'Odysseus. Sur ce type de gigantesque bateau, ils sont à peine 20. C'est donc facile, mais un des marins, Jétro, s'est enfui.
Pardon.
Mais...
Non, mais c'est bon. En fait, c'est sur une jonction de page.
Oui.
Donc tu nous as dit au début que cet album était dans les sentiers battus.
Bah oui, parce que cet album n'est peut-être finalement qu'un tract illustré. Tout le scénario est construit pour raconter la vie portuaire, le commerce international sauvage, les conditions de vie déplorables des marins sur ces énormes bateaux, tankers, porte-conteneurs ou vraquiers, et plus important, l'opacité du commerce maritime entre propriétaires des bateaux, pavillons de complaisance et donneurs d'ordre. Et si déjà ça ne suffisait pas, Elsa Gauthier en rajoute une couche, l'importation du soja OGM, aberration écologique puisque ce produit détruit et la nature, et l'économie agricole. Tout cela, on le sait si on veut bien se tenir informé, si on a deux sous de conscience citoyenne. Bon, peut-on être surpris d'un tel scénario quand on saura que Elsa Gauthier est rédactrice en chef adjointe à la revue Social Terre et qu'elle collabore à Reporter, deux revues écologistes peu complaisantes.
Bon, on comprend vraiment qu'il y a une bataille idéologique là-dedans. Tu le sauves avec quoi cet album ?
Touché, Seb. Parce que cet album est magnifique, parce qu'il y a le dessin de Jacob Hardy, dont c'est apparemment le premier projet publié. Et là, on prend une véritable claque. La couverture donne le ton et la première image de l'histoire, la rade de l'Orient et l'ancienne base de sous-marins en pleine page nous happe. C'est totalement dingue tant le climat et l'ambiance sont donnés. Et tout le reste de ce magnifique album est à l'avenant. Les personnages sont d'une humanité folle, ils existent, la pluie tombe, les goélands habitent les pages autant qu'ils colonisent les moindres recoins des villes portuaires et on se retrouve inévitablement au bar pour, à défaut de se réchauffer le corps, se réchauffer le cœur. Ce Jacob Hardy, il ose tout. Il n'a pas peur et comme il n'a pas peur, il met son dessin magnifiquement maîtrisé au service du scénario profondément politique. Et ce dessin superbe et puissant produit un effet étonnant. Il transforme un scénario que j'ai qualifié de tract militant, mais c'est bien évidemment une provocation, en une histoire d'hommes. Les marins de la marine marchande sont essentiellement des hommes, en histoire d'humanité qui nous prend à la fois à la gorge et aux tripes. Et pour bien planter le clou, la dernière image est une minuscule vignette allongée en bas de page. C'est Beru, le pêcheur punk de la première image, qui part en mer dans son tout petit bateau, longeant l'immense Odysseus à quai.
Ne me dis pas que ça se termine juste comme ça, si le discours il est politique.
Eh bien, vraiment, tu m'écoutes vraiment bien, Seb, et ça me ravit le cœur. Cette vignette, c'est bien la fin de l'histoire, mais le lecteur n'est pas pour autant abandonné. Un dossier contextualisant la problématique du commerce maritime boucle l'album avec en ouverture un texte magnifique d'Elsa Gauthier, véritable plaidoyer écologique, qui se termine par une phrase extraite du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, excusez du peu. Elsa Gauthier y explique, entre autres, qu'elles, comme Jacob Hardy, sont des néophytes dans le format BD. Alors si maintenant les débutants mettent la barre à ce niveau, le 9e art n'a pas fini de nous étonner. Et ce sont les éditions Ouest France qui éditent cet album, qui me semble atypique dans leur ligne éditoriale. Mais c'est bien que des maisons d'édition qui ont des moyens laissent des nouveaux arrivants s'exprimer. L'album, je le rappelle, s'intitule Vraxec. Il est d'Elsa Gauthier et de Jacob Hardy et il est publié aux éditions Ouest France. Et ce serait commettre une faute grave que de ne pas le lire.
Ouais, c'est plutôt un album qui est bien atypique hein, quand même, que tu nous présentes là pour une fois.
Atypique, ouais, enfin, beau. Enfin, moi, je le trouve magnifique. J'ai été pris dedans. Il y a une intensité de dessin. Ce qui est étonnant, c'est la qualité du graphisme. Jacob Hardy, donc, de toute évidence, c'est son premier album, et je trouve ça, moi, assez étonnant parce que il y a une grande cohérence dans les personnages. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis enthousiasmé par cet album.
Ouais, c'est vraiment propre. J'aurais juste un petit souci avec la typo, qui est un petit peu particulière quand même.
Ah, mais c'est parce qu'il savait que j'allais lire cette bande dessinée. Ça s'appelle une typo sans sérif et je suis un inconditionnel de la typo sans sérif, c'est-à-dire c'est pas du Times, c'est pas du New Roman, etc. C'est de l'Arial ou quelque chose d'approchant. Et je suis passionné par ces typographies, donc moi ça me va parfaitement bien.
Eh bien, sa prochaine chronique, ce sera Luc Douin, passion typo.
Alors, à ce moment-là, je vous parlerai de L'Accident de Grotesque, qui est une typographie superbe.
C'est vrai?
L'Accident de Grotesque?
Oui.
Eh ben, j'ai presque hâte.
Et pour vous faucher, parce qu'il y a nécessairement, il faut que je vous coupe vos moyens, la prochaine fois, je vous parlerai d'un manga, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui en parliez.
Eh bien écoutez, on vous promet une émission exceptionnelle d'une heure sur un manga par Luc Douin dans 15 jours.
On a hâte.
Non mais en même temps j'ai hâte parce que c'est vraiment pas ton genre de prédilection, donc c'est un exercice qui peut être cool.
Oui.
Enfin t'aimes bien te challenger de toute façon, donc...
Allons-y.
Eh bien à mon tour je vais vous parler, on va rester sur de la bande dessinée, mais une bande dessinée un petit peu particulière, un petit peu folle. Je vais vous parler de Bunkerville aux éditions Ankama de Shind Balzano et j'ai perdu Le Grand. Comment expliquer, on reste dans l'eau, mon cher Luc, puisque il s'agit de l'histoire d'un homme qui est courtier, si je ne me trompe pas, et un jour en fait sa compagne se suicide en allant marcher dans l'eau, elle se laissant s'emporter, et mais il essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé. Et il finit par suivre le même trajet qu'elle, allant dans l'eau. Et contre toute attente, plutôt que de mourir, il se retrouve devant un arbre qui a une espèce de grande porte, et il traverse cet arbre et tombe dans un trou, telle une petite fille anglaise dans une contrée à la poursuite d'un lapin et une montre gousset, et il se retrouve dans... De quoi ?
Non, j'ai rien dit, j'allais dire, t'as l'étrange Noël de Monsieur Jack qui fait ça.
Aussi, ouais. Faut que les gens ils arrêtent de tomber dans les arbres, ce serait pas mal. Et il se retrouve dans une espèce de ville néo-industrielle, un côté très steampunk, très sombre. On est que dans des tons sépia. Et il va essayer de comprendre ce qu'il fout là. Il va essayer aussi de comprendre pourquoi il s'est pas noyé. Qu'est-ce que c'est que cette cité? Et pourquoi sa compagne semble ne pas être vraiment morte dans cette ville. Je vais m'arrêter là sur la description, parce que c'est que quelques pages du début, et c'est un récit que je trouve quand même assez complexe à suivre. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans quelque chose qui est très proche de la folie, très proche du Wonderland d'Alice au Pays des Merveilles, et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ce beaucoup, beaucoup de choses, il est aussi présenté par un graphisme qui est très particulier. Il n'y a pas de collage comme on pourrait avoir avec du David Mack, mais il y a des cases qui sont éclatées, il y a des bulles de blanc, comme des taches d'encre, mais qui ressortent. Il y a beaucoup de matière. On sent que cette ville, elle est très vivante et qu'il y a une folie qui anime toute cette ville. Il y a une raison à ça. Mais ça, faudra le lire pour le découvrir. Et ça donne quelque chose de très étrange, très bizarre à lire. Il y a des moments où on se dit, bah, tiens, je vais le poser le livre parce qu'en fait, j'y arrive pas. Je comprends pas. Et on a une espèce de magnétisme qui nous fait rester dedans et nous dire, bah, si, en fait, je veux comprendre, je veux aller plus loin. Et je veux savoir pourquoi il est là. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que c'est, comme dans certains films, plutôt un coma et il s'imagine des choses? Et ça, faudra le lire pour arriver à le comprendre.
Le dessin est très sympa. Hein. Ça mène une ambiance, comme tu as l'air de dire. Je pense que ça va bien coller parce que on sent, c'est oppressant, je trouve.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, travaille soit à la palette graphique, soit à l'aquarelle pour de vrai. C'est assez bluffant, hein, effectivement, parce qu'on est c'est climat steampunk, mais pas tout à fait steampunk, quoi. C'est le steampunk, le dessin, il est souvent extrêmement précis, très technologique. Là, on est l'aquarelle, l'effet d'aquarelle fait un effet un peu qui bave, enfin des couleurs qui bavent, et je trouve ça vachement beau, hein.
Ce qu'il y a, c'est qu'on a, on a ce décalage, puisque la ville en elle-même va avoir cet aspect très technique, et les personnages sont plutôt flous, sont plutôt absents, comme s'ils n'étaient pas importants dans le récit, et que c'était la ville qui comptait plus que le reste. Il y a plein de choses comme ça qui sont très particulières dans ce récit-là, et ça le rend très intéressant. Il y a certains aspects qui m'ont fait penser à, je sais pas si vous avez vu Dark City d'Alex Proyas. On a cette espèce de ville qui est moitié beaucoup plus importante et beaucoup plus présente que les personnages qui subissent tout ce qui arrive. Et c'est vraiment une immersion, et au sens propre comme au sens figuré.
Quand je l'ai feuilleté tout à l'heure, je pense qu'il y a une double page où il découvre vraiment la ville.
Ouais.
Et on sent qu'elle a la ville a une présence, elle n'est pas oppressante. Mais elle a une présence et écrase très facilement le personnage. Je pense notamment à cette double page.
Vraiment, le personnage, il est en bas de la page, ouais, de droite, ouais, en tout petit, tout et le reste, petit, c'est la ville.
Ouais.
Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est une ville qui est censée être sous l'eau, et là, on a l'impression d'être au-dessus des nuages.
Ouais. Oui.
Donc c'est vraiment très particulier. Pour être hyper transparent, je ne sais pas si je l'aurais pris, parce que la couverture... Elle a besoin, en fait, qu'on la prenne pour vraiment se dire, tiens, il y a un truc qui m'intrigue. De loin, sur une étagère, je sais pas si elle m'aurait attiré. Mmh. Et pourtant, c'est un voyage assez... Laissez-vous tomber dans le trou de l'arbre comme Jack, comme Alice, comme... Il y a plein de gens, en fait.
C'est un peu...
Arrêtez comme Alain Chabat.
Comme Alain Chabat. Pardon?
À la fin, il tombe dans un trou.
Oui, c'est vrai.
D'or.
Mais c'était pas un arbre.
Ah oui.
On a les références qu'on peut. Hein. Après avoir mangé du popcorn salé à la Chabat. Non, il y a sur quelques planches, il y a des réminiscences. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, ça m'évoque un peu du les décors de Peter Escoyten dans ses villes. Ses albums, les villes, les cités obscures, ses grands dessins, ses grandes planches, ça rappelle un peu ça. Ce qu'il faut préciser, c'est malgré tout qui édite ça.
C'est les éditions Ankama.
C'est Ankama, effectivement, et c'est pas ça nous change des décors de jeux vidéo dans lesquels ils sont. Enfin, c'est leur cœur de métier. Hein. Moi, je trouve que c'est assez étonnant de voir un album comme ça publié par chez Ankama.
Alors. C'est bien parce que c'est à soulever un petit truc qu'on n'a pas dit de manière un peu plus formelle. Il faut savoir que cette histoire-là, c'est une histoire qui a voulu être proposée au cinéma à l'origine par Pascal Schind. Et ça ne s'est pas fait. Il a échangé avec Pascal Legrand, du coup, qui est un des auteurs du transpersonnage. Mmh. Et il faut savoir que le storyboard avait été fait par Schuiten, du coup.
Ben,
voilà.
Comme quoi, hein.
Comme ça, quoi, je ne savais pas. L'œil.
Hein. Je ne savais pas. Hein.
Et parce que le film ne s'est pas fait, il a été proposé à Bolzano pour l'adapter en BD. Mm-hmm. Ce qui donne un ouvrage qui est quand même très dépaysant.
Il y a surtout en arrière-fond, il y a du monde, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, et puis ça laisse imaginer le film qu'on aurait pu avoir. Alors, n'hésitez pas, hein, si à un moment. Il y a des gens qui ont de l'argent. Proposer ça en film.
S'il y a une cagnotte Ulule sur.
Ah ouais. Ah, ça peut se faire. Moi, j'ai pas assez d'argent. Je vous propose sur ces entrefaits de refaire une nouvelle pause musicale avec Zoéco et Tangerine. On se retrouve juste après sur le 101.5 de Radio G.
I was 11 with a weapon in the pocket of my dress. If someone tried to mess, this birdie would go off and I'd be calling up the feds. Volume up to kill the time. Gotham City and I had to make it mine. Stepping over cracks, overly outspoken. Never really broken, just some bottled up emotion. Oh, what do I know? Not too much at all, just a little bit.
Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Vous pouvez toujours interagir avec nous dans le chat. N'hésitez pas si vous êtes fan d'Hervé Bazin. Et on continue. Luc va en avoir marre.
La problématique du running gag, c'est qu'il court.
C'est qu'il est difficile à rattraper pour les nouveaux.
Oui, moi aussi.
On est bon là.
Stop, on arrête là-dessus.
C'est fini. On va partir du côté du manga, et même du manfra, j'aime pas le mot.
Oh, mais, manfra. Manga,
ouais, du manga français.
Le manga, moi,
un manga avec un auteur français, mais qui nous fait voyager, non pas au Japon, mais en Afrique. Ça s'appelle Red Flower, c'est de Louis, Just Louis. Et le tome 1 a été publié aux éditions Glénat. C'est Le Jeune Coq et le Soleil. Je vois des gens qui dodelinent de la tête.
On le connaît.
Vous le connaissez?
Oui. On a eu la chance de le rencontrer et manger faire un resto avec lui.
Non, tu confonds, je crois, avec Medio.
Mais il était là aussi. Hein.
Il était là aussi?
Oui.
Ok, je me rappelle pas.
Tu t'en es même pas rendu compte.
Et ouais, trop de visage. Mais oui, ce manga, c'est une dinguerie parce que, comme tu disais, c'est un manga qui est édité en France.
Ouais.
Par un créateur français.
Ouais.
Et en fait, à mes yeux, ça recroise vraiment trois cultures différentes, à la fois celle du manga, donc le support, celle de l'histoire qui se déroule sur le continent africain, si je dis pas de bêtises.
C'est une Afrique non mentionnée.
C'est une Afrique non mentionnée. Et le créateur qui est français, et cette richesse de culture fait que c'est une pépite, tant au niveau du dessin qui est propre, qui est quali, vraiment très très bon. Et puis l'histoire, elle est top.
Ça marche très bien. Alors tu avais lu la version Glénat, est-ce que tu avais lu les deux tomes publiés par Louis avant ou pas?
Non, je les ai peut-être eu entre les mains parce que mon cousin les a vus. Mais je me rappelle pas les avoir lus.
Parce que pour vous donner un peu de contexte, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Louis à l'Angers Geek Fest, mm-hmm. où il était présent. On a fait une petite interview qui a été diffusée l'année dernière. Et à l'époque, le manga version Glénat n'était pas publié. Et il m'expliquait qu'il avait deux tomes que lui a écrit. Et ces deux tomes-là, c'est pas la réédition professionnelle chez Glénat, c'est vraiment une suite. Les deux premiers tomes sont une histoire indépendante et Red Flower, c'est une nouvelle histoire aux éditions Glénat, différente, avec le même personnage.
D'accord.
Donc c'est hyper cool, et pour avoir échangé avec lui, Louis, hein,
ouais, bah, Louis.
C'est qu'il est autodidacte, qu'un jour il s'est dit tiens, je ferais bien un manga, et il s'est dit tiens, je vais apprendre à dessiner le manga. Faites tout ça et faites-le comme lui, parce que c'est vraiment... Il a un niveau de dessin qui est assez assez dingue.
Ouais,
c'est très précis, c'est très riche, c'est très détaillé, c'est très dynamique. Enfin,
on sent qu'il a eu de bonnes influences qui l'ont nourri, et puis qu'il a travaillé certains trucs, c'est vraiment top.
Et d'une certaine manière, il met du désordre dans le manga, parce que le graphisme est quand même... c'est un graphisme qui glisse, enfin qui n'est pas stéréotypé par rapport au manga. Il y a un personnage comme ça. C'est pas des personnages qu'on voit familièrement dans le manga. Je parle du graphisme, simplement du graphisme.
Ouais. Hein.
Et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, à vue comme ça, c'est.
Il a expérimenté plein de choses et je pense qu'il a essayé d'adapter son dessin aux choses qu'il voulait amener. Il parle de culture africaine. Alors, je me suis pas renseigné pour savoir si c'est des vrais rites ou des choses comme ça. Ça me paraît crédible parce que j'ai vu certains éléments dans d'autres, dans des reportages par exemple. Mais il apporte du design, il apporte une façon de présenter les choses, des coiffures, des textiles, et c'est vivant. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'on nous rajoute un truc pour nous faire de l'histoire. C'est vivant parce que c'est intéressant et que c'est bien intégré. Donc c'est vraiment très très cool. Je me rends compte que je n'ai même pas parlé de l'histoire. Parce que depuis tout à l'heure, on dit que c'est super bien, mais vous imaginez même pas de quoi ça parle en fait.
Non, on n'imagine pas du tout. Alors de quoi ça parle, Sam ?
Eh bien l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kelly. Et qui n'a qu'une seule envie, c'est de devenir un membre de la garde du roi, un roi qui est son papa. Et sauf que ce gamin, il fait bourde sur bourde, il ne respecte pas les règles, il essaie de pratiquer le katafali, qui est une sorte d'art martial. Et en pratiquant ce katafali, il y a une espèce de de principe, c'est que c'est pas un art martial qui est fait pour bâcher les tronches. C'est un art martial qui fait pour communiquer avec les autres. Et Kelly, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre ça, que c'est pas parce que tu pratiques ça que t'es le plus fort. Il y a une autre volonté derrière. Aussi bourrin soit-il. Et, il y a un jour son grand frère qui rentre, qui lui a accompli ses différents rites et qui va pouvoir essayer d'affronter le rite de passage pour devenir un des gardes du roi. Et le petit Kelly, ça le frustre un peu parce que lui, il aimerait bien aller plus grand que ça et tout de suite maintenant. Donc il y a ce rituel, ce passage à l'âge adulte, il y a plein d'infos, il y a plein de... c'est vivant, c'est crédible, il y a plein de petites choses qui sont qui font que c'est riche en fait. Et encore une fois, sans vouloir faire du communautarisme, en parlant, c'est accessible à tout le monde. Si vous connaissez pas les rites d'origine africaine ou des choses comme ça, ou la culture africaine dans sa grande globalité, c'est absolument pas grave. C'est quand même quelque chose qui est hyper accessible avec tous les codes du shonen qu'on va pouvoir avoir, et ça marche très très bien. Et j'avoue que je me suis laissé tellement emporter qu'il y a un petit twist final, je l'avais pas vu venir, et j'ai fait what?
What the fuck?
Complètement. Alors, si vous voulez faire comme moi et avoir ce petit rite de fin, n'hésitez pas. C'est vraiment très très bien.
C'est le tome 1, non?
C'est le tome 1, ouais. Je sais pas si les éditions Glénat en ont publié plusieurs pour l'instant.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs déjà. Ouais.
Je sais pas combien, mais je sais que la série est un peu avancée.
S'ils sont pas à 3.
Oui.
Mais ils avaient prévu une série courte, hein, c'est ça,
oui,
à la base.
Plutôt, oui.
Bah, s'ils font comme ils font beaucoup maintenant avec les mangas.
Parle plus près de ton micro, s'il te plaît.
Excuse-moi.
Comme voilà, ça, c'est beaucoup mieux.
Maintenant, ce qu'ils commencent à faire avec tout ce qui est manga français ou même européen, c'est qu'ils partent sur un certain nombre de tomes. C'est-à-dire, on va dire 3 ou 4 tomes. Ils font en sorte que ça puisse se terminer comme ça si jamais ils se rendent compte que ça marche pas. Et si ça fonctionne bien, ils poursuivent.
Ils continuent.
Voilà. Ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Onera.
Oui.
Magnifique, moi j'adore de la dark fantasy, voilà, et qui poursuit pour le coup. Mais d'autres comme Suite Concrète, je crois, de mémoire le nom, qui malheureusement est arrivé au bout de son arc, mais qui va pas continuer par la suite.
Okay, c'est une bonne méthode, hein.
Mais oui, c'est bien parce qu'ils font en sorte quand même que l'histoire se tienne malgré tout, qu'il puisse être continué pour faire développer le lore et tout ça avec un scénario qui peut continuer après. Mais voilà, au moins on n'est pas frustré de séries stoppées brutalement. Et déjà ça, je trouve que c'est bien.
Ouais, ça permet de. Ouais, tu parles effectivement de frustration. Il y a beaucoup de séries comme ça qui s'arrêtent. Où par principe on mettait un, et puis il y avait un cliffhanger final et t'as pas de fin.
Ouais, c'est toujours très frustrant. J'ai quelques séries en tête comme ça.
Ouais, pareil. oui, je redonne les refs. C'est Red Flower, c'est de Louis, Just Louis. C'est publié aux éditions Glénat et c'est vraiment une pépite, et je dis pas ça juste parce que c'est un peu original, c'est vraiment on se laisse emporter par le truc et c'est vraiment ultra ultra cool. Et puis on va finir avec un truc cool mais plus compliqué, avec les âmes enflammées, les âmes enflammées, c'est de Tsuru Ringo Starr, aucun rapport avec les Beatles. C'est un shoujo. Tu connaissais ça, Fabien, ou pas?
Non, je n'en ai pas entendu parler de celui-ci.
Comment ça, Fabien ne connaît pas un manga?
Dieu, je vous le fais passer. Vous allez voir.
Et il a un magasin et je ne connais pas.
À chaque émission, il se passe un truc de fou.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais il faut qu'on fasse des clashs. On n'a pas Booba, donc on est obligé de faire des trucs par manga interposé.
Il faut faire du storytelling. Hein.
Ouais. Comment vous expliquez les âmes enflammées? C'est un manga où on va avoir plusieurs histoires dedans. Il y a un mot pour ça, mais je l'ai oublié.
C'est un recueil d'histoires?
C'est un recueil, une anthologie.
Une anthologie.
Voilà.
Ouais, okay.
Mais un petit peu comme sur Le Chasse et Croisé au Val Doré, va y avoir des interconnexions. On suit différents personnages qui, à un moment, vont être confrontés à un chien un peu bizarre qui parle. Ce chien, il est attiré par une seule chose, les flammes que peuvent renfermer dans leur cœur certaines personnes. Des flammes qui souvent sont mourantes parce que les gens sont limités dans leur vie. Ça peut être une situation familiale où t'es enfermé, t'as envie de t'en sortir, mais t'es resté enfermé dedans. Et parce qu'il se nourrit de ça, il va inciter les gens à avoir des réflexions sur eux-mêmes pour que ces flammes grandissent et qu'ils puissent vivre leur destin tel qu'ils en ont le besoin. Et on va suivre différents personnages, différents parcours de vie. Ça va être un jeune garçon qui aime se maquiller. Ça va être une femme au foyer qui en a marre d'être écrasée par son mari. Ça va être une femme qui travaille dans une entreprise et qui aimerait s'élever dans cette entreprise. Et à chaque fois, ce chien parlant dont j'ai perdu le nom va les inciter à se remettre en question, à se dire mais pourquoi je subis mon destin alors que j'ai un avenir, alors que j'ai quelque chose, des aspirations et que je peux faire bouger le monde. Et en fait, ce chien, il intervient très peu parce que il est juste là pour être la petite étincelle. Il rajoute un petit peu d'essence sur ces flammes que les gens ont en eux et qui les incite à avoir des réflexions. Et c'est vraiment très intéressant de se poser aussi ces mêmes questions sur notre quotidien. Quelles sont ces petites étincelles qu'on a en nous et qu'on pourrait pousser beaucoup plus loin. Alors, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont très culturellement japonaises. La place de la femme dans le foyer ou dans l'entreprise sont des choses qu'on voit beaucoup. Même aussi simplement des codes culturels d'une fille qui discute avec un garçon. Qu'est-ce que ça impose et qu'est-ce que ça sous-entend dans beaucoup de cultures, enfin beaucoup d'événements de la culture japonaise. Et ça marche très bien. Il n'y a pas d'action. C'est quelque chose qui est très lent, qui est très contemplatif, qui va vous demander du temps, non seulement pour le lire, mais aussi pour avoir les réflexions que les personnages vont faire. Vous allez vous les poser aussi. Et le dessin, il est dans le même ordre d'idées. C'est un dessin qui permet de prendre son temps. C'est un dessin qui est plutôt fin, vraiment détaillé, avec parfois des grosses envolées, notamment lorsque ce chien qui parle va prendre l'apparence. Une fois que la personne va avoir résolu ses dilemmes internes, il va prendre l'apparence de ce futur et de cette personne de façon enflammée. Et on a beaucoup de détails, beaucoup de choses. C'est un manga qui est aussi globalement très bavard, parce qu'on a beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnements. Et c'est vraiment un bon moment. Moi, j'avoue, et je suis pas, je suis pas quelqu'un de trop émotif, mais des moments à avoir eu les larmes aux yeux devant des situations où tu te dis, ils sont bloqués juste à cause d'eux-mêmes, en fait, juste à cause du regard des gens ou des situations culturelles, et de se dire, mince, ils sont à ça vraiment, pas grand-chose du bonheur, et qu'il le faut, il faut aller plus loin. Et puis je parlais du coup du chassé-croisé au Val d'Oré, les personnages vont se rencontrer au fil des histoires, on va retrouver certains personnages qui sont parfois juste mentionnés, ou qui sont parfois un peu plus présents dans l'histoire des autres. Et c'est vraiment un petit bijou qui est vraiment très agréable à lire et très agréable à découvrir.
Oui, on voyait, moi je trouve, en feuilletant un petit peu, on voit vraiment que c'est les personnages qui sont au centre de l'histoire. Il n'y a quasiment pas de décor en fait.
C'est clair.
On voit les dessins, les décors sont très pâles, on les voit à peine, et c'est vraiment les personnages qui ressortent complètement. Et non, ça a l'air d'être des très belles histoires. En tout cas, cette douceur du trait donne envie de se poser pour le lire. Je trouve ça vraiment très sympa.
Et puis, il y a à la fois cette douceur et en même temps cette violence de situation qui ne devrait même pas exister. Hein.
Oui, mais en fait, par là, c'est marrant parce que soit on a vu trois facettes complètement différentes du manga, et c'est là où on peut voir que c'est très large. Avec ça, on va être sur de la tranche de vie et des faits qui peuvent être difficiles, avec de la réflexion, avec le shonen, avec celui avec Red Flower, où là on va être vraiment sur de l'action, sur de l'aventure, et un Sanctum par exemple en seinen, où là vraiment on va être sur quelque chose d'un peu plus débridé, et où ça appartient un peu dans tous les sens aussi. Donc ça permet d'avoir vraiment des pans différents du manga sur juste une heure comme ça, et je trouve que c'est vraiment chouette là, d'avoir vu, de finir avec ça.
Et on en aura d'autres là, dans 15 jours. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais avec un point qu'il faut souligner, enfin moi qui me j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises ma méconnaissance du champ du manga, je l'avoue, hein, je sais pas tout, je sais qui est Peter Skeuten, mais je voilà. mais j'observe une chose, c'est que dans les mangas dont vous avez parlé ce soir, dans les trois mangas, c'est trois fois des éditions Glénat.
C'est pas fait exprès.
C'est pas fait exprès, mais c'est significatif. C'est-à-dire que les fois précédentes, on a parlé d'Okidoki et autres, et là, on parle tout d'un coup de Glénat, on parle de qualité de scénario, d'originalité, de particularisme, qui sont plutôt des particularismes occidentaux, enfin, un regard d'occidental, et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que les maisons d'édition françaises s'engagent et ont des choix éditoriaux vraiment très très précis. Voilà, c'est juste ce que je souligne parce que je regardais les tranches défiler, je me dis tiens encore Glénat. Voilà.
Ouais, c'est pas volontaire. C'est comme quoi, le hasard fait bien les choses.
Le hasard, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Mais on verra en fait, parce que les maisons d'édition, hein, que ce soit du franco-belge, du comics ou du manga, y a plein de diversité. Il y en a même des toutes petites qui font des pépites. T'en déterres quand même pas mal, hein, sur du polar, Luc.
Oui.
Et c'est aussi l'occasion, je le dis, je le répète, pour cette émission, de vous faire découvrir des choses que vous auriez pas vues, parce que effectivement, c'est trop facile de ne pas louper le dernier Tintin, le dernier Lucky Luke. Enfin non, Tintin, ils en font plus, mais le dernier Lucky Luke ou le dernier Astérix, et de passer à côté de Polar comme tu passes, les éditions West France. Voilà, y a pas une production de dingue.
Après, j'aurais fait mes devoirs, on aurait parlé de Casterman aussi, donc.
Oui. Mais ça, quoi, il fallait faire tes devoirs.
Voilà. C'est que ça. ne tends pas le bâton pour te faire battre.
Ce qui est bien, c'est que tu le reconnais, quoi. C'est que, effectivement, tu dis, bon, j'aurais fait mes devoirs. C'est bien. Tu conjugues bien en réalité. Mais tu les feras pour la prochaine fois.
Ouais.
Parce que nous sommes impatients.
C'est vrai.
Hein, parce que tu parles de Casterman, tout ça. Nous, on est curieux.
J'ai découvert, enfin, Seb m'a fait découvrir qu'on pouvait diffuser de l'audio nous-mêmes.
Oui.
Je vais faire ça. Je vais vous faire un beau truc parce que le retard
mérite. Voilà, tu dois nous récompenser. En fait, tu dois nous récompenser.
Ouais, voilà.
Parce que nous, on donne de nous, on est présent.
Je vous fais un beau truc.
Voilà.
That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Ça passe extrêmement vite. J'étais en compagnie de Luc, Fabien, Nolwenn et Richard. On a parlé de plein de choses. Est-ce qu'on voulait qu'on fasse un petit récap de ce dont on a parlé?
Ah oui, il faut.
Allez, oui.
Allez, on a parlé de Bunkerville, donc aux éditions Ankama. On a parlé de Chasse et croisée au Val d'Oré aux éditions Dupuis. On a parlé
de Vrac-Sec aux éditions Ouest France.
Et on a parlé de Sanctum aux éditions Glénat.
On a parlé aussi de Red Flower, toujours aux éditions Glénat. Et puis des âmes enflammées, encore et toujours aux éditions Glénat. Promis, on varie les prochaines fois.
Pas de problème. On s'était pas concerté. Hein.
Non, puis c'est pas sponsorisé. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va pouvoir se retrouver dans 15 jours pour de nouvelles lectures. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission dans quelques instants sur le www.radio-g.fr. On se retrouve la semaine prochaine on remercie Bruno d'avoir participé.
Oui.
Parce
brillamment.
Que c'était cool.
Brillamment.
Moi, je n'hésitez pas de participer.
Il a fait des interventions qui étaient tout à fait pertinentes, brillantes. On adore ces interventions. Et Bruno n'existerait pas. Comment vivrait-on?
Et ben, on vivra encore au temps d'Hervé Bazin. Allez, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni! Ore wa naru!
Batman! Oh, la petite ch'touf!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
It was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark.
Radio G 101.5 FM Radio-G.fr